Oh, hallelujah. Après ce temps passé à le louer, à l'adorer, nous voulons maintenant nous asseoir très humblement à ses pieds et lui tendre une oreille attentive, car il a quelque chose à nous communiquer, car il aimerait faire grandir notre foi, il aimerait que nous puissions grandir dans le domaine dans le domaine de l'adoration, que nous arrivions à entrer dans ce statut spécial d'adorateur en esprit et en vérité. Quel bonheur d'avoir passé ces moments, Seigneur, avec toi. Quelle grâce, ô Dieu, de nous être approchés du trône sur lequel tu es assis, pour t'adorer, pour te louer, pour te célébrer, pour t'exprimer notre reconnaissance pour tous les bienfaits, Seigneur, que tu ne cesses de nous accorder. Et encore aujourd'hui, Seigneur, tu nous prêtes ton souffle vital. Encore aujourd'hui, Seigneur, tu nous accordes ta vie, cette vie qui nous anime à la fois sur le plan biologique et sur le plan spirituel. Tu es le propriétaire absolu de toute forme de vie. Et si nous sommes là ce matin, c'est tout simplement parce que tu l'as voulu. C'est tout simplement parce que tu es amour. Et dans ton amour, tu nous as manifesté ta grâce. Cette grâce qui nous a permis de quitter nos lieux respectifs, nos maisons, pour venir à ta rencontre ici dans ta maison, Seigneur, à l'occasion de cette célébration. Merci pour tout. Tu as accueilli favorablement nos chants et nos cantiques, nos prières qui sont montées vers toi comme du parfum de bonne odeur. Merci pour tout. Aide-nous maintenant, Seigneur, à rester dans ta présence, à demeurer dans ta présence et à recevoir ta parole depuis ta présence. Nous voulons que cette parole puisse trouver des cœurs bien disposés pour la mettre en pratique. Que ta parole, Seigneur, puisse impacter nos vies. Que ta parole puisse nous donner cette capacité dont nous avons tant besoin, Seigneur, pour voir l'invisible, ainsi aller de l'avant, et ainsi, Seigneur, continuer à escalader la montagne de la révélation jusqu'à ce que nous arrivions à son sommet. Père, te disons merci pour tout et te prions maintenant de nous parler dans le nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et gloire au Seigneur, acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Comment voir l'invisible? Voilà la question à laquelle nous essayons de répondre depuis plusieurs dimanches. Comment être pleinement conscient des réalités spirituelles qui nous environnent? Comment avoir une vision spirituelle qui nous permette d'abord de voir l'invisible par excellence, c'est-à-dire le Seigneur lui-même, c'est-à-dire notre Dieu, mais aussi voir toutes ces réalités spirituelles qui nous environnent, car nous sommes environnés, nous sommes entourés d'un monde, mes amis, qui échappe à nos sens, un monde que nous ne pouvons pas appréhender avec nos sens naturels, que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux naturels, que nous ne pouvons pas saisir d'une manière ou d'une autre. Et pour pouvoir, mes amis, avancer dans la vie, nous avons besoin d'avoir cette capacité de voir l'invisible. Alléluia. Comment voir l'invisible? Voilà donc la question que nous nous sommes posés, que nous nous posons encore aujourd'hui, et à laquelle nous essayons, par la grâce de Dieu, d'y répondre. Mais avant de revenir à notre texte de la fois passée, sachez que par rapport à cette capacité de voir l'invisible, il y a deux vérités essentielles. Il y a deux vérités, mes amis, qui doivent nous habiter et qui seules peuvent nous communiquer cette capacité de voir l'invisible. Il y a d'abord la foi. Eh oui, la foi. Elle est présente dans notre vie. Au début de l'expérience spirituelle, il y a la foi. Car c'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi dans la personne de Jésus, mais aussi dans l'œuvre unique et singulière qu'il a accompli à la croix de Golgotha. Alléluia. C'est par la foi que nous sommes appelés à marcher avec Dieu, à interagir avec lui. C'est par la foi que nous pouvons expérimenter l'accomplissement des promesses de Dieu. Alléluia. Bref, c'est par la foi que nous pouvons voir ces dieux-là agissant dans notre vie et à travers notre vie. Et ensuite, la deuxième vérité, c'est le renoncement de soi. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Vous ne pouvez pas être un but de vous-même. Vous ne pouvez pas avoir vos yeux tournés constamment vers les réalités visibles, les réalités terrestres, et vous attendre, mes amis, à développer cette capacité à voir l'invisible. Non. Plus nous mourons nous-mêmes, plus, eh bien, nous réunions nous-mêmes, voyez-vous comme le Seigneur le dit, et que nous prenions, nous chargeons de notre croix pour suivre Jésus, plus alors nous développons cette capacité de voir l'invisible. Alléluia. Mais nous allons, avant d'aborder la deuxième vérité, nous n'en avons pas encore fini avec la foi, car il y a tellement de choses à découvrir par rapport à la foi. Tout ce qui a été écrit l'a été pour notre foi. Alléluia. Nous ne pouvons pas mieux connaître le Seigneur sans la foi. Nous ne pouvons pas avancer dans la vie sans la foi. Donc vous voyez, la foi demeure une vérité essentielle, une expérience que nous devons faire au quotidien et qui est rendue possible que par le Seigneur lui-même. Comment voir l'invisible? Nous allons revenir à notre passage de la fois dernière, à savoir Luc. Aujourd'hui, c'est le quatrième épisode, de comment voir l'invisible. Luc chapitre 17, à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde ou un grain de sénevé, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Qui de vous, s'il a un serviteur qui laboure ou fait paître le troupeau, lui dira quand il revient des champs, viens tout de suite te mettre à table? Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi le repas, mets-toi en tenue pour me servir, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, tu mangeras et tu boiras. Aura-t-il de la reconnaissance envers ses serviteurs, parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Alléluia. Voilà le sentiment qui devrait animer tout serviteur de Dieu après avoir servi le Seigneur, après avoir servi la parole de Dieu et après avoir servi l'Église. Je n'ai fait que ce que je devais faire, je ne suis qu'un serviteur inutile. Car celui qui nous rend capable d'accomplir le ministère que nous avons reçu de lui. Augmente-nous la foi. Quelle prière! Quelle requête extraordinaire! Prière que nous devrions tous faire, mes amis. Requête que nous devrions tous présenter au Seigneur. Car il y va de notre marche avec le Seigneur. Car il y va, mes amis, de l'accomplissement des promesses que Dieu nous a faites. C'est la foi qui nous permet de nous approprier des promesses de Dieu et de voir ces promesses au temps du Seigneur s'accomplir dans notre vie d'une manière ou d'une autre. Le dimanche dernier, nous nous sommes attardés un tout petit peu sur cette requête formulée par les apôtres. Et nous avons dit que les gens qui demandent au Seigneur d'augmenter la foi, de leur augmenter la foi, n'étaient pas des païens. C'étaient des gens qui avaient déjà cru en lui. Ils avaient cru en lui, d'ailleurs Pierre n'a-t-il pas dit, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Eux tous étaient arrivés à cette confession de foi, à cette proclamation. Eux tous avaient tourné le dos, mes amis, au judaïsme, pour embrasser cette nouvelle religion, entre guillemets, ou du moins pour se tourner vers le Seigneur et désormais le suivre, croire en lui, s'asseoir sur lui. Voyez. Ne leur avait-il pas donné le pouvoir d'aller prêcher le royaume de Dieu et en même temps d'accomplir des miracles? En effet, ils sont partis, ils ont proclamé la parole de Dieu avec puissance et nous voyons des miracles et des prodiges, une démonstration de puissance accompagner leur prédication. Alléluia. Et puis voilà que ces gens-là, à un moment, demande au Seigneur, augmente-nous la foi. De quelle foi alors s'agit-il? Voyez-vous? Car le Seigneur leur dit, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénevé, vous diriez à ce mûrier, ou grain de moutarde, c'est pareil, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et cet arbre vous obéirait. De quelle foi alors parle-t-il? Nous l'avons vu. Voyez? Nous avons vu que ce n'est pas la foi du salut, car la foi du salut n'est pas quantifiable. Elle ne peut pas être grande, tout comme elle ne peut pas être petite. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être sauvé, plus sauvé ou moins sauvé, en fonction de la qualité, en fonction de la grandeur ou du degré de votre foi. Pas du tout. On est sauvé ou on ne l'est pas. Vous me suivez? Donc, quand il demande la foi, là, ce n'est pas la foi du salut. Alors, si ce n'est pas la foi du salut, qu'est-elle alors? Cette foi qui est quantifiable. Car le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, si vous aviez de la foi gros comme un grain de moutarde, voilà ce que vous feriez. Elle est quantifiable. Alors que la foi du salut ne l'est pas. Voyez? Elle est quantifiable parce que c'est une foi dont ils avaient besoin, comme nous l'avons vu, pour entrer dans l'univers du surnaturel, dans l'univers des prodiges et des miracles, alléluia, pour entrer dans ce monde invisible où tout devient possible. Voyez? À un moment, monsieur avait amené son enfant aux apôtres, aux disciples, pour qu'ils puissent les guérir. L'enfant était lunatique, il souffrait de lunatisme. Je vous l'ai expliqué la fois dernière, c'était des maladies qu'on attribuait aux différentes phases de la lune. Mais derrière cette maladie, en tout cas, merci Patrick, en tout cas pour le cas de cet enfant, il y avait une puissance démoniaque, il y avait un démon. Voilà. Quand le démon se manifester, l'enfant allait se jeter dans le feu ou dans l'eau. Donc, le diable cherchait par tous les moyens de détruire la vie de cet enfant. Et voilà que le papa prend cet enfant, l'amène chez les disciples. Il leur demande de le guérir. Et ces derniers invoquent le nom du Seigneur. Ces derniers lient le démon, implorent la grâce de Dieu pour la guérison. Rien ne se passe jusqu'à ce que le Seigneur arrive. Et quand le Seigneur arrive, le papa va se jeter aux pieds du Seigneur en lui disant, Seigneur, aie pitié de moi. Mon fils souffre énormément. Il explique un peu de quoi souffre son fils. Et puis il ajoute, j'ai amené cet enfant à tes disciples. Ils n'ont pas pu le guérir. Et c'est là que le Seigneur, se tournant vers eux, va leur dire, race incrédule, jusqu'à quand vous supporterai-je? Race incrédule. Voyez? Et puis, il se tourne vers l'enfant, il ordonne au démon de partir, et le démon s'en va, et l'enfant recouvre la santé. Alléluia! Et gloire au Seigneur. Il ordonne, et les démons obéissent. Alors, les disciples sont étonnés, ils disent, mais Seigneur, c'est pas possible. Nous avons fait comme toi. Nous avons invoqué ton nom, nous avons prié pour que cet enfant soit délivré, mais rien ne s'est passé. Que passe? Qu'est-ce ado, Seigneur? Alors, il leur dit, c'est à cause de votre petite foi. Il y a d'ailleurs une version de la Bible qui dit, c'est à cause de la pauvreté de votre foi. Alléluia. Et donc, ils avaient une petite foi. Et quand nous parlons de la foi dont il est question dans Luc 17, eh bien, il s'agit de cette foi quantifiable qui peut être petite ou grande. Vous voyez? Une foi qui est objective, c'est-à-dire qu'on peut recevoir. Si vous aviez de la foi, le Seigneur objective, vous diriez à cette montagne ou à ce mûrier, déracine-toi et jette-toi dans la mer, eh bien, il vous obéirait. Alléluia. Et Marc, chapitre 11, explique bien ce qu'est cette foi. Le Seigneur passe, sort de Jérusalem, il voit un figuier. Il s'approche pour cueillir quelques figues. Quand il arrive, il n'y avait rien. Et le Seigneur prononce une parole. Il maudit le figuier, que plus jamais personne ne mange de tes figues. Les disciples entendent, n'est-ce pas? Et puis, les voilà qui poursuivent leur voyage. Le lendemain, ils repassent par le même chemin. Et là, Pierre et les autres disciples voient que le figuier avait complètement séché. Pierre est intrigué. Pierre se tourne vers le Seigneur en disant, « Mais Seigneur, regarde, le figuier que tu as maudit, il est complètement sec depuis ses racines. » C'est là que le Seigneur répondra à ses disciples en leur disant, « Ayez foi en Dieu. » Mais je vous ai donné la version littérale. « Ayez la foi de Dieu. » Si vous lisez ça en grec, voilà comment vous liriez. « Ayez la foi de Dieu. » Oh, alléluia. Cette foi, mes amis, dont nous avons besoin pour entrer dans l'univers des miracles. Cette foi qui rend possible l'impossible. Cette foi dont nous avons tous besoin. C'est de cette foi-là dont il est question ici, alléluia. Et en considérant tout ceci, nous voyons que la foi que les disciples demandent, c'est celle qui nous fait entrer dans l'impossible et qui nous amène à voir l'impossible devenir possible. C'est la foi qui nous fait entrer dans le monde des miracles, dans le monde du surnaturel, qui nous permet d'expérimenter la puissance de Dieu dans nos besoins, quels qu'ils soient. Alléluia. C'est donc cette foi-là qui déclenche le royaume des cieux, qui déclenche les lois du royaume de Dieu, qui fait descendre le règne de Dieu ici-bas. Jésus l'a dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. » C'est donc cette foi-là, mes amis, qui fait descendre le règne de Dieu dans notre vie. En d'autres mots, c'est cette foi qui nous amène à voir l'invisible. Alléluia. Je suis malade, je prie par la foi, je vois déjà la guérison sur le plan invisible, et c'est seulement après que cette guérison devient une réalité pour moi. Alléluia. Je prie pour un besoin, voyez-vous, pour le travail, et puis il y a une conviction qui s'installe à moi. Je vois déjà le travail, alors que je suis encore chômeur. J'ai déposé des dossiers un peu partout, mais Dieu me dit, j'ai ouvert la porte. Tu as déjà ton travail. Je saisis cette parole. Mais ce travail-là est encore une réalité invisible, oui ou non? Mais à cause de cette foi-là, en entrant dans cette parole du Seigneur, cette foi, eh bien, va me permettre de commencer déjà à louer, à rendre grâce à Dieu, alors même que je ne suis pas encore embauché. Alléluia. Voir l'invisible. Faire descendre le ciel sur terre, comme nous l'avons vu durant la semaine. Car de par notre vocation, d'être un sacerdoce royal, eh bien, nous avons cette onction royale, cette autorité que le Seigneur a mise à notre disposition pour commander, pour décréter, pour déclarer, et puis voir les choses se passer comme nous l'aurions proclamé. C'est cette foi-là dont il est question dans ce passage. Augmente-nous la foi. C'est cette foi-là dont il est question dans Hébreux chapitre 11. Hébreux 11, verset 6. Pas 16, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, de plaire à Dieu, de mener une vie qui lui soit agréable. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Encore une fois, vous m'avez déjà entendu lire ce passage dans la traduction littérale. Voilà ce que la traduction littérale dit. Il faut que celui qui s'approche de Dieu ait foi ou croit que Dieu est. C'est le verbe être et non pas le verbe exister. Et puis ensuite, et qu'il devient. Voyez-vous, qu'il devient le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Le Dieu qui est notre Dieu? À cette question, vous pouvez trouver beaucoup, beaucoup de réponses dans la Bible. Notre Dieu est tout-puissant. Alléluia. Eh oui. Elohim. Voyez? Notre Dieu est un Dieu plein de miséricorde qui est prêt à nous accorder le pardon, n'est-ce pas? Notre Dieu est celui qui est capable de nous guérir de toute maladie. Il est tout ça à la fois. Celui qui guérit, celui qui restaure, celui qui change la malédiction en bénédiction, celui qui nous pardonne, celui qui nous maintient dans la vérité, enfin bref, le Dieu qui est. Et puis qui ensuite devient le rémunérateur, c'est-à-dire qui donne une récompense, qui donne un salaire à celui qui le cherche dans un domaine précis. Et ce salaire-là, eh bien, c'est quoi? Ou cette récompense-là, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait que Dieu me rencontre dans mon besoin. J'étais à la recherche du travail, j'ai mis ma confiance en lui, j'ai proclamé sa victoire, et puis le Seigneur me rencontre dans ce besoin en me donnant du travail. Alléluia. Le Dieu qui est et qui devient. Être et devenir. Voilà deux verbes importants qui se trouvent dans ce passage. Et la question qu'on peut se poser est celle-ci. Comment ce Dieu qui est tout-puissant, qui est miséricordieux, qui est riche en fidélité, riche en bienveillance, peut-il devenir celui qui rencontre nos besoins? Comment passer du verbe être au verbe devenir? Eh bien, c'est là que la foi devient plus qu'indispensable. C'est donc cet élément-là qui amène le Dieu qui est à devenir celui qui me rencontre dans mes besoins. Le Dieu qui est à devenir Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit. Yahvé Shalom, le Dieu qui donne la paix. À devenir le Dieu qui me donne la victoire. Et donc c'est la foi, mes amis, qui amène Dieu à devenir celui qui nous console, celui qui nous réconforte, celui qui accomplit des miracles. Alléluia et gloire au Seigneur. Être avant de devenir. Et cet élément vital qui amène Dieu qui est à devenir celui qui me rencontre dans mes besoins, celui qui me rencontre dans mes préoccupations, celui qui essuie mes larmes, celui qui me décharge de tout fardeau, celui qui m'accorde des victoires dans mes combats, cet élément-là eh bien, n'est autre que la foi. Oui, la foi. C'est cette foi-là que les apôtres ont demandé au Seigneur, à savoir la foi de Dieu. Alléluia. Le Seigneur leur a dit, ayez la foi de Dieu. Si vous croyez et que vous avez la foi de Dieu, eh bien, vous accomplirez toutes sortes de miracles. Dieu lui-même appelle à l'existence les choses qui n'existent pas encore. Alléluia. Il les appelle à l'existence. Voilà la foi que nous devons avoir. Nous sommes dans sa volonté. Les portes sont fermées. Il nous dit, mais avance. Mais je ne peux pas avancer parce que la porte est fermée. Alors à ce moment-là, je dis, Seigneur, augmente ma foi. Donne-moi ta foi, la foi de Dieu. Et ensuite, je proclame que la porte soit ouverte. Et je vois la porte s'ouvrir. Car c'est une foi qui rend possible l'impossible. Alléluia. Qui manifeste la gloire et la puissance de Dieu. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé ou un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, à cet arbre, eh bien, déracine-toi et jette-toi dans la mer. Et le Seigneur ajoute, l'arbre vous obéirait. Quelle puissance, mes amis, de modifier la nature, de modifier, d'apporter le changement tout autour de nous. C'est possible en marchant par la foi et en faisant montre de la foi de Dieu. Car c'est une chose d'avoir la foi qui nous fait entrer ou qui nous a fait entrer dans le royaume de Dieu. Ça n'est une autre, mes amis, d'avoir la foi de Dieu pour expérimenter ses promesses, pour expérimenter sa puissance, pour expérimenter sa gloire. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Nous devons faire preuve de cette foi-là. Et lorsque cette foi se manifeste, des solutions sont trouvées à tout. La guérison devient possible. Tout devient possible. Car avec Dieu, tout est... Augmente-nous la foi. Revenons à notre texte. Seigneur, augmente-nous la foi. Comment le Seigneur répond-il à cette demande, à cette prière? On se serait attendu à ce que le Seigneur leur donne une recette miracle, n'est-ce pas? Une formule spirituelle quelconque, une recette ou qui leur propose une démarche mystique. Vous voulez cette foi-là, qui déplace les montagnes, la foi du miracle, des miracles, eh bien voilà ce que vous devez faire. Vous devez vous retirer 40 jours, vous devez jeûner pendant autant de temps, vous devez dormir à même le sol pendant autant de temps, et au bout d'un certain de tel temps, eh bien, cette foi tomberait sur vous comme un fruit tombe au cours d'une tempête. C'eût été facile, hein, mes amis. Voyez-vous, comment le Seigneur répond-il à leurs questions? Eh bien, il ne leur donne pas une formule toute faite. Il ne leur propose pas une recette spirituelle ou religieuse quelconque. Pas du tout. Voyez-vous, pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas. Méfiez-vous de tous ces enseignements. On vous amène sur des montagnes. Il y en a qui ont été tués là-bas. Hein. Ouais. Il semble qu'il y a des bandits qui sévissaient sur une montagne où les gens avaient l'habitude d'aller prêcher. Comment? Chercher Dieu. C'est pas mauvais d'aller chercher Dieu. Et quelquefois, on le fait sans conviction. On va là-bas parce que tout le monde y va. On va là-bas et puis on répète des prières comme des perroquets. On jeûne pour être vu. Pour que nous aussi, plus tard, nous puissions avoir au moins quelque chose à dire. Ah, tu sais quoi? J'étais à la montagne de la prière. J'avais fait 10 jours. Ça devient comme des Oscars qu'on brandit, hein. Ah, tu sais quoi? Oh, moi, je reviens de là. Hein? Oh, j'ai senti la présence de Dieu. Ah oui, mais c'est pas parce que tu l'as senti qu'effectivement la présence de Dieu était avec toi. Nous devons apprendre à ne pas nous laisser berner par nos émotions. Voyez, à être toujours objectif. C'est pas parce que je sens quelque chose qu'alors Dieu est à l'œuvre. On peut sentir mille et une choses, hein. Les gens qui fréquentent les Nganga, hein, quand on leur fait des histoires et tout ça, ils ressentent aussi des choses, oui ou non? Voilà. Voilà. Ce n'est pas parce qu'ils ressentent quelque chose que cela viendrait forcément de Dieu. S'il vous plaît, ne vous fiez pas à vos sentiments, ne vous fiez pas à vos émotions. Les émotions sont trompeuses. Ouais. Oh, je sens la foi. Mais tu la sens comment? Ah non, je sens la foi. Oui, on peut avoir une conviction, c'est autre chose. Oui. Et quelquefois, le cœur peut même s'opposer. Il y a un combat en nous. L'homme intérieur est en train de se battre contre le moi. Pour le moi, il dit non, c'est une aventure. Comment tu veux faire ça? Patrick, réfléchis. Tu as eu... Les gens te prendraient pour un petit dérangé mentalement. Ils te prendraient pour un illuminé. Comment tu veux faire ceci alors que toutes les conditions ne sont pas réunies? Mais en toi, il y a cette conviction par le Saint-Esprit que c'est le timing de Dieu, fantôme de Dieu, que ce maintenant, il me dit, lève-toi et va. Lève-toi et va, je jette mon manteau. Je jette tous ceux qui me retenaient et je pars. Pendant que je me lève, pendant que j'amorce ma démarche, la porte est encore fermée. Et ceux qui sont autour de moi, ils voient cette porte fermée. Mais moi, par la foi, comme celui qui m'a dit « va », eh bien, je sais qu'elle est déjà ouverte. Et quand je vais arriver, avant même, j'aurai fait peut-être quelques pas, sous le humant des autres, sous leur colibé, leur moquerie, leur raillerie, hein, voilà. Encore une fois, je ne sais pas ce qu'on leur apprend à la borne. Il n'ira pas loin. Vous le voyez, non? Il y a une pierre qui obstrue la route et lui veut nous faire croire qu'il peut passer. Beaucoup ont essayé de déplacer cette pierre. Ils n'ont jamais su. Mais le ressuscité du troisième jour, lui est capable. Celui qui t'a dit « va ». Voyez, c'est comme ces femmes, ces trois femmes, le lundi où le Seigneur est ressuscité. Elles étaient animées de bonnes intentions. Elles ont acheté du parfum pour aller embaumer le corps du Seigneur. Ils s'attendaient à trouver un cadavre. Mais elles savaient aussi qu'il y a une grosse pierre qui avait été placée devant la tombe du Seigneur. Et en cours de route, elles se posaient des questions. Qui déplacera pour nous cette grosse pierre? C'était des questions tout à fait rationnelles. Vous voyez? Mais ce qui est formidable avec ces trois femmes, tout en se posant ces questions, elles avançaient. Oh, alléluia! Elles avançaient parce qu'elles voulaient absolument voir leur sauveur, voir leur Seigneur. Mais quand elles sont arrivées, avant même d'arriver, la pierre avait déjà été déplacée. La foi de Dieu, alléluia! Eh oui. Voyez. Cette foi-là, c'est le Seigneur qui l'initie, qui en est l'initiateur, celui qui suscite cette foi. Et les apôtres l'avaient bien compris quand ils lui ont demandé, Seigneur, augmente-nous la foi. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas aller trouver la foi dans le temple de Jérusalem. Ils avaient compris qu'ils ne pouvaient pas trouver cette foi en observant toutes ces traditions du judaïsme, et que c'était lui l'initiateur, mais aussi l'accomplisseur de cette foi. Comment Hébreux 12, verset 2 nous le dit. Hébreux 12, verset 2 nous présente le Seigneur. Voilà ce que la Bible nous dit, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Littéralement, comme j'aime beaucoup la traduction littérale, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'initiateur de la foi et son accomplisseur. Alléluia. Il suscite la foi, mais c'est aussi lui qui l'accomplit. Parce que c'est la foi de Dieu. Alléluia. La foi de Dieu. Nos yeux fixés sur lui. Nous avançons en étant mus, en étant portés par sa parole, en étant conduits par cette foi. Voyez. Alors comment le Seigneur va-t-il initier cette foi de Dieu en nous? Voilà. Qu'est-ce qu'il a donné comme réponse à la requête des apôtres? Eh bien, nous voyons tout de suite, avant de voir comment le Seigneur a répondu à cette question, qu'il y a des choses, qu'il y a des conditions qui doivent être rencontrées en amont avant d'expérimenter en aval la démonstration, la manifestation de cette foi extraordinaire. Alléluia. Retournons à notre texte. Seigneur, augmente-nous la foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit, Seigneur, donne-nous plus de foi. Donne-nous plus de foi. Ajoute-nous de la foi. Nous nous rendons compte que notre foi est petite. Elle est pauvre. Voyez-vous? Alors, augmente-la. Donne-nous en plus de ce que nous avons. C'est ça ce que ça veut dire, augmente-nous la foi. Voilà donc la requête des apôtres. Voilà la prière. Et nous devrions demander régulièrement, Seigneur, augmente-moi la foi. Et comment le Seigneur répond à leur prière? Quelle recette spirituelle leur a-t-il proposé pour booster leur foi, pour l'augmenter? Quelle formule spirituelle leur a-t-il révélée? Quelle démarche mystique leur a-t-il proposé? Aucune. Car il n'y a pas de démarche mystique à entreprendre pour voir cette foi augmenter, grandir, être habité par la foi de Dieu. Il n'y a pas de formule spirituelle toute faite. Il n'y a pas de recette. Non. Car nulle part dans la Bible, il est fait mention d'une quelconque formule, d'une quelconque révélation cachée. Et qu'en découvrant cette révélation, eh bien notre foi grandirait. Pas du tout. Rien. Rien. Alors comment le maître, comment le Seigneur a-t-il répondu à notre question et à leur requête? Eh bien, nous l'avons lu à la prière des apôtres. À leur requête, le Seigneur ne leur révèle pas une formule spéciale, voyez-vous, pour avoir cette foi-là. Mais le Seigneur leur donne en revanche une réponse sous forme de parabole. Eh oui. Sous forme d'un enseignement. Donc à cette question, il leur donne un enseignement. Tout est dans la parole de Dieu. Alléluia. Et cet enseignement, mes amis, comme nous allons le découvrir à travers cette parabole, contient des vérités. Des vérités susceptibles de créer en nous des conditions afin que cette foi de Dieu puisse naître en nous et nous amener à expérimenter de grandes choses de sa part. Alors examinons de plus près la réponse du Seigneur. Augmente-nous la foi. Quel est le verset qui vient après le verset 6? Le Seigneur dit. Ah. Et le Seigneur dit, qu'est-ce qu'il dit? Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et vous obéirez. Qui de vous, il enchaîne, hein? Qui de vous, s'il a un serviteur ou un esclave, nous verrons cela un peu plus en profondeur, un serviteur qui laboure ou qui fait paître les troupeaux, lui dira quand il revient des champs. Alors qu'il est sale, hein? Il a travaillé dans le champ, il a donné à manger au bétail. Il lui dira, viens tout de suite te mettre à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi le repas. Mets-toi en tenue pour me servir, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. Alléluia. Après quoi, toi, tu boiras et tu... Il a promis, tu mangeras. Il a promis que tu boiras. Il a promis de t'accorder toutes sortes de bénédictions, matérielles, spirituelles ou autres. Mais il y a des choses que tu dois d'abord faire vis-à-vis de lui, avant que tu boives, avant que tu manges. Alléluia. Alors nous allons examiner de plus près cette parabole. A priori, cette parabole n'aurait pas de lien avec la requête des apôtres. C'est que certaines versions, mes amis, de la Bible, évidemment, supposent. Si vous avez votre Bible, vous allez voir d'une version à l'autre qu'on a coupé, qu'on a délimité ce passage d'une certaine manière. En effet, en délimitant, comme nous allons le voir, ce passage d'une certaine manière, eh bien, certaines versions laissent entrevoir que la parabole que le Seigneur utilise de ses serviteurs qui travaillent dans le champ pour son maître, qui travaillent, qui s'occupent de ses bêtes, eh bien, est la requête du Seigneur n'aurait pas de lien. C'est ainsi que certaines versions ont divisé la Bible. Par exemple, moi j'ai ma Bible ici, il y a d'abord les occasions de chute. Si vous regardez dans vos Bibles, au verset premier, Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des occasions de chute, mais malheur à celui par qui elles arrivent, il serait avantageux, donc jusqu'au verset 2. Là, ce sont les occasions de chute. Et puis ensuite, la deuxième délimitation, eh bien, c'est la foi. Voyez-vous, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. On coupe. Et enfin, on arrive à la parabole concernant les serviteurs inutiles. Voilà comment certaines versions délimitent un peu ces passages en trois. Vous avez les occasions de chute, vous avez la requête par rapport à la foi, et puis enfin, vous avez donc cette parabole des serviteurs inutiles. Et quand vous tombez dans ce piège-là, vous ne verriez pas le lien qu'il y a entre la requête des apôtres, mes amis, et la parabole, l'enseignement que le Seigneur leur donne. Si nous voulons comprendre cela, faudra faire fi de la manière dont certains théologiens ont donc coupé ce passage. D'autres versions, par exemple, ont une césure, c'est-à-dire une coupure, entre le verset 5 et 6. Pour eux, le premier bloc est constitué du verset 5, premier au verset 5. Ça fait un bloc. Et puis le deuxième bloc, verset 6 au verset 10. Voilà donc comment certaines versions ont délimité, ont coupé ce passage. Et avec cette approche-là, qui consiste à atomiser le texte biblique, pour ceux qui ont fait la théologie, c'est surtout en milieu catholique, je sais que beaucoup me suivent, eh bien la forme Geschichte, c'est-à-dire cette approche qui consiste à croire qu'il y a eu au départ des formes littéraires, etc., amène tous ces spécialistes de la Bible à atomiser le texte, vous voyez, à le couper en petits morceaux. Et en agissant de cette manière, on nous a privés de beaucoup de bénédictions, alléluia. Eh bien, cette parabole-là, qui de vous, s'il a un serviteur qui laboure et fait paître son troupeau, lui dira quand il revient de champ, viens tout de suite te mettre à table, ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi le repas, mets-toi en tenue ou ceins-toi pour me servir jusqu'à ce que j'aie mangé. Après cela, toi tu mangeras. Eh bien, cette parabole-là est la réponse à la demande, à la requête des apôtres. Alléluia. Car au départ, il n'y avait pas de limite, de délimitation dans la Bible. Voyez, au départ, quand Paul écrivait, il ne mettait pas les versets, hein. Il ne mettait pas des chapitres. Premier chapitre, je termine. Non. Vous prenez l'épître de Paul aux Romains, une épître c'est quoi? C'est une lettre. Il écrivait simplement. Maintenant, nous, pour l'intelligence de tous ces textes-là, nous avons jugé bon de couper. Et quelquefois, on a mal coupé. Voyez? On peut d'ailleurs voir cela, tu n'avais pas prévu très rapidement, dans Ésaïe 53, hein. Je n'avais pas prévu ça. Si la technique, le service audiovisuel peut me mettre ça. C'est encore un problème de découpage de la Bible. Regardez. Voilà, j'y arrive, oui. Le premier verset dit quoi? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Le chapitre 53 commence là, mais au fond, pour comprendre la suite de qui il est question, il faut commencer la lecture au verset 13 du chapitre 52. Balancez le chapitre 52, verset 13. Voici mon serviteur. Et le serviteur de l'Éternel est un des titres du Messie. Il prospérera, il montera, il s'élèvera, il sera très haut placé. De même que tu as été pour beaucoup un sujet de froid, de même son aspect n'était plus celui de l'homme. Son apparence n'était plus celui de l'homme, son apparence n'était plus celle des fils d'Adam. De même, il purifiera par l'aspersion beaucoup de nations, n'est-ce pas? Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Qui a cru à ce... Voilà. Vous voyez la suite logique. Mais on a coupé. Et combien de fois nous avons commencé la lecture du chapitre 53 avec ce verset, qui a cru à ce qui nous était annoncé. Donc mes amis, au départ, il n'y avait pas de... délimitation dans la Bible. Le système de chapitres et de versets est venu beaucoup plus tard. Et malheureusement, certains découpages ont été faits sans tenir compte de d'autres facteurs. Ce système de chapitres et de versets est arrivé à la fin du Moyen Âge. En effet, à la fin du Moyen Âge, eh bien, un imprimeur, et qui était en même temps un ami du roi, nous sommes en France, du roi François Ier, il s'appelait Robert Estienne, et c'est donc lui qui a fait la division de la Bible en versets. Mon ami, c'est venu beaucoup plus tard. C'est pourquoi je vous encourage, si vous voulez lire une épître, lisez-la comme une lettre. L'épître aux Romains, eh bien, imaginez-vous qu'on vous envoie une lettre. Lisez-la depuis le commencement jusqu'à la fin. Comme ça, vous allez mieux apprécier le contenu. Oui. Et donc, la parabole est bien la réponse du Seigneur à leur demande. Donne-nous la foi. Il leur donne cet enseignement. Alléluia. Voilà ce que vous devez faire. Et nous reviendrons sur cet enseignement le dimanche prochain. Et donc la parabole de serviteurs, de ce serviteur qui, après avoir travaillé dans le champ, après avoir gardé le troupeau de son maître, revient vers son maître, au lieu que le maître ait pitié de lui, en disant, oh là là, tu as beaucoup transpiré, repose-toi d'abord, il dit non. Tu as fait ça pour moi, indirectement, en t'occupant de ce qui m'appartient, mais non, fais quelque chose pour moi, directement, alléluia. Donne-moi d'abord à manger, donne-moi d'abord à boire, c'est seulement après que tu mangeras, que tu boiras. Alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. On peut mettre ça. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Elle est bonne, elle est merveilleuse, c'est une véritable nourriture pour nous. Aide-nous, Seigneur, à comprendre l'enseignement. Cet enseignement que tu as proposé à tes apôtres lorsqu'ils t'ont demandé, lorsqu'ils t'ont présenté cette requête d'augmenter leur foi. En effet, tout se trouve dans cet enseignement. Merci d'être l'initiateur de cette foi de Dieu, mais aussi son accomplisseur. Puisque c'est une foi qui nous vient de toi, alors aide-nous, Seigneur, à remplir des conditions dans notre cœur, à remplir des conditions en amont, afin de pouvoir expérimenter les bienfaits, la puissance de cette foi en aval. Merci pour tout. Bénis cette parole dans nos cœurs, qu'elle suscite la soif, Seigneur, d'entendre encore d'autres vérités en rapport avec cet enseignement. Merci pour tout. Merci, Seigneur. Te prions aussi maintenant de bénir ce service des offrandes, des dîmes et de tout autre, Seigneur, soutien financier en rapport avec la construction d'un nouveau bâtiment sur ce site. Bénis tous ceux qui te donnent avec un cœur généreux. Bénis-les. Mais bénis également tous ceux qui ne peuvent pas, parce que n'ayant pas de travail, parce que n'ayant pas de moyens, tu sais combien ils aimeraient contribuer, Seigneur, à la construction. Oh, je prie pour que tu leur donnes du travail. Et que, Seigneur, lorsque tu le leur trouveras un travail, qu'ils te soient fidèles envers toi, reconnaissants dans leurs offrandes, dans leurs dîmes. Merci pour tout. Amen.